Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 29 novembre 2024. Le Tchad met fin à l'accord de coopération en matière de défense avec la France.
Dans le cas du Tchad, on peut parler d'une surprise parce que rien ne laissait entrevoir cette décision.
Sédi Kaba, spécialiste du Sahel, analysera la décrue des armées françaises en Afrique dans la partie magazine. Dans le nord du Cameroun, le naufrage d'un bateau a fait au moins 18 morts. La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, reconduite aujourd'hui à la tête de l'OMC. En Namibie, le vote reprend en partie sous les critiques de l'opposition. Les djihadistes aux portes d'Alep, la deuxième ville de Syrie. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco. On commence par le journal. Le Tchad, dernier pays sahélien à abriter des forces françaises, a annoncé jeudi soir mettre fin aux accords de sécurité et de défense avec Paris. Une annonce surprise survenue quelques heures après une visite du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Les précisions de John Lindon.
Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française, a déclaré le ministre des Affaires étrangères tchadien Abderrahmane Koulamala sur la page Facebook du ministère. Le Tchad est un maillon clé de la présence militaire française en Afrique, constituant le dernier point d'ancrage de Paris au Sahel après les retraits forcés de ses troupes au Mali, au Burkina Faso et au Niger. La France est un partenaire essentiel, mais elle doit aussi considérer désormais que le Tchad a grandi, a mûri et que le Tchad est un État souverain et très jaloux de sa souveraineté, avait relevé un peu plus tôt le patron de la diplomatie tchadienne à l'issue d'une rencontre entre le président Mohamed Idriss Déby Itno et Jean-Noël Barrot. Le ministre des Affaires étrangères en visite en Éthiopie n'a pas mentionné la situation au Tchad.
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a indiqué jeudi que la France allait devoir fermer ses bases militaires dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a entamé aujourd'hui sa visite en Éthiopie, poursuivant une tournée en Afrique après le Tchad et le Soudan. À Addis Abeba, Jean-Noël Barrot a rencontré le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, avec qui il a discuté du renforcement des institutions multilatérales, la résolution des crises, ainsi que les enjeux climatiques et de santé. Il a aussi rencontré ce matin le premier ministre Abiy Ahmed. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a définitivement validé ce vendredi l'adoption de la nouvelle constitution approuvée mi-novembre par référendum avec 91,64% de oui, a annoncé son président, une étape clé du retour au pouvoir des civils après le coup d'État d'août 2023. La constitution gabonaise adoptée, la prochaine étape est la révision du code électoral en vue de la tenue d'une élection présidentielle prévue en août 2025. Les 173 articles de la nouvelle loi fondamentale du Gabon, fruit de contributions récoltées au printemps, lors d'un dialogue national consacre entre autres un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois avec un régime présidentiel doté d'un pouvoir exécutif fort sans premier ministre et l'impossibilité d'une transmission dynastique du pouvoir. Au moins 18 personnes ont trouvé la mort dans le chavirement d'une embarcation transportant des passagers qui se rendaient à un marché dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Des opérations de sauvetage sont en cours selon les autorités locales. Alexandrine Ologno.
L'accident s'est produit jeudi sur les voies d'eau menant au district de Darak, une île située dans le bassin du lac Tchad, près de la frontière avec le Tchad. Le bateau en bois était en route lorsqu'il a été secoué par des vents violents, ce qui l'a fait chavirer. Les corps de 5 femmes et de 13 hommes ont été retrouvés selon l'officier divisionnaire de Darak, qui précise que le nombre exact de passagers à bord au moment de l'accident n'était pas connu. Des pluies saisonnières plus abondantes que d'habitude dans certaines parties de l'Afrique occidentale et centrale ont provoqué des inondations généralisées, notamment dans la division camerounaise du Logone et du Chari, qui comprend Darak et Golfeig. Cette situation a obligé les habitants à se déplacer par voie d'eau, mais le manque de canoës favorise la surcharge, qui est la cause la plus fréquente d'accidents de bateaux dans la région. Il y a 2 semaines, un incident similaire s'est produit dans le district voisin de Golfeig, lorsqu'une pirogue construite localement est transportant une trentaine de passagers a chaviré, tuant 4 personnes et en laissant d'autres portées disparues.
Ngozi Okonjo-Iweala, reconduite pour un second mandat à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Aucun autre candidat ne s'est présenté contre elle et les 166 membres de l'OMC ont accepté par consensus une proposition visant à la reconduire dans ses fonctions. Eddy Isango.
Nous avons un programme chargé à réaliser et nous avons bien l'intention de nous mettre au travail immédiatement, sans relâche, pour tenter d'obtenir ces résultats, a déclaré Okonjo-Iweala aux journalistes, citant les réformes de l'OMC et les négociations sur la pêche comme faisant partie de ses priorités. Ancienne ministre nigériane des Finances, Okonjo-Iweala est entrée dans l'histoire en 2021 en devenant la première femme et les premiers Africains à occuper les postes de directeur général de l'OMC. Elle a annoncé en septembre qu'elle s'est présentée à nouveau dans le but d'achever un travail inachevé. Son nouveau mandat à la tête de l'OMC avec ses 166 membres se fera dans l'ombre de la présidence américaine de Donald Trump. Le président élu avait paralysé l'organisation lors de son premier passage à la Maison-Blanche en s'opposant à ce que Okonjo-Iweala dirige l'institution une première fois et a déjà fait savoir que les règles du commerce international importent peu face à son slogan « l'Amérique d'abord ».
Les Namibiens ont recommencé à voter ce vendredi dans 36 bureaux du pays, rouverts pour 2 jours après les incidents ayant empêché mercredi de nombreux électeurs de participer à ces élections indécises pour le parti historique au pouvoir. Une tension inédite secoue la Namibie, d'ordinaire fière de sa tranquillité et de sa démocratie mise à mal dans ces élections dénoncées en bloc par les oppositions comme un simulacre après les interminables files de mercredi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité internationale, l'armée syrienne dit avoir repoussé l'offensive des djihadistes et de leurs alliés parvenus au port de la grande ville d'Alep dans le nord de la Syrie. Les combats contre le régime qui ont fait plus de 255 morts selon une ONG, Georges Attino.
Les djihadistes et leurs alliés sont arrivés vendredi aux portes d'Alep après 2 jours d'une offensive fulgurante. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les combattants du groupe Ayat Tahrir al-Sham et des formations alliées sont entrés aux abords des quartiers de Al-Hamdaniya et New Aleppo de la ville d'Alep après avoir amené 2 attentats suicides avec des voitures piégées. L'armée syrienne dit avoir envoyé des renforts à Alep et a assuré que les assaillants ne sont pas parvenus aux limites de la cité. Dans une conférence de presse, le chef du gouvernement autoproclamé à Idleb, Mohammad al-Bashir a justifié jeudi l'offensive en disant que le régime avait commencé à bombarder les zones civiles, ce qui a provoqué l'exode de dizaines de milliers de civils. Plus de 14 000 personnes ont été déplacées par les violences selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Une 50aine de localités ont été conquises par les djihadistes depuis mercredi selon l'OSDH. Le nord de la Syrie bénéficiait ces dernières années d'un calme précaire rendu possible par un cessez-le-feu instauré après une offensive du régime en mars 2020.
Israël et le Hezbollah se sont mutuellement accusés jeudi de violation du cessez-le-feu au Liban, où les armes ont de nouveau parlé avec notamment un raid aérien de Sahal contre un entrepôt de roquettes de la milice chiite dans le sud. L'état-major de l'armée israélienne a dans un premier temps dénoncé une violation présumée du cessez-le-feu instauré mercredi matin, signalant l'arrivée de suspects pour certains dans des véhicules en plusieurs points du Liban sud. Il précise que l'armée a ouvert le feu sur les suspects. Les autorités ukrainiennes ont annoncé ce vendredi remis les corps de 502 soldats tués dans la guerre entre les deux pays, sans dire cependant s'il s'agissait d'un échange. C'est le deuxième rapatriement de ce type ce mois-ci, Kiev ayant récupéré début novembre les corps de 563 soldats. Les députés britanniques ont approuvé aujourd'hui en première lecture d'un vote historique la légalisation d'une aide à mourir pour certains malades en phase terminale à l'issue d'un débat chargé d'émotions. Le projet de loi qui a mobilisé les parlementaires au-delà des clivages politiques classiques devra encore franchir plusieurs étapes au Parlement avant son adoption définitive. Et puis le président français Emmanuel Macron a effectué aujourd'hui une dernière visite du chantier de Notre-Dame de Paris, prélude aux cérémonies de début décembre qui verront la cathédrale renaître du culte. 5 ans et demi après l'incendie du 15 avril 2019, de nombreuses personnalités françaises et étrangères ont été conviées aux cérémonies de réouverture du culte prévues le week-end des 7 et 8 décembre.
Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le Nigeria et la France vont renforcer leur coopération économique. La visite à Paris du président nigérian Bola Tinubu a été marquée par des déclarations de partenariat et l'annonce de l'implantation d'une cinquième banque nigériane en France, la United Bank of Africa. Le président français Emmanuel Macron a fait état de prêts de l'Agence française de développement pour plus de 330 millions d'euros dès 2025 pour la sécurité alimentaire, l'agriculture, la formation professionnelle, entre autres projets. Ce vendredi, M. Tinubu a poursuivi son plaidoyer en faveur des investissements dans son pays lors d'un forum avec le MEDEF, le patronat français. M. Macron a promis que la France ferait tout son possible pour favoriser une meilleure inclusion du Nigeria dans des institutions mondiales comme le FMI, la Banque mondiale ou le Conseil de sécurité de l'ONU. Le conseil d'administration du Fonds africain de développement a approuvé un prêt de plus de 80 millions de dollars pour un projet routier inter-État entre le Sénégal et la Guinée. Le financement contribuera au renforcement du commerce entre les deux pays en favorisant un écoulement rapide des produits agricoles.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Dakar 2025, le parcours de la 47e édition remanié et une nouveauté pour la sécurité.
La 47e édition du Dakar se disputera sur 12 étapes en plus d'un prologue dans le désert saoudien selon un parcours présenté ce jeudi et dont certaines étapes seront dissociées entre les catégories moto et auto, une nouveauté visant à améliorer la sécurité. Du 3 au 17 janvier 2025, 807 participants vont s'affronter dans le sable de la péninsule arabique à bord de 439 véhicules sur quelques 5000 km de spécial de chronométré. Le parcours complet a révélé un tracé remanié par rapport au précédent, un tour du pays dont le prologue partira de Bicha, ville située dans le sud-ouest et qui accueillera également sur deux jours la 48 heures chrono, un format inauguré l'an dernier et où les pilotes n'ont ni assistance possible ni communication et ont l'obligation de couper les moteurs pour la nuit. L'édition 2025 du célèbre rallye raid s'achèvera dans les interminables dunes de l'Empty Cote, où le classement pourrait être rejoué lors de la 11e et avant-dernière étape, selon le patron du Dakar, David Castera. La principale nouveauté de cette édition sera la séparation des parcours entre les motos et les autos sur certaines étapes, voire les camions, afin notamment d'assurer une meilleure sécurité. 43 femmes porteront également le casque cette année. Après le Sahel, puis l'Amérique du Sud, le Dakar, plus grand rallye raid du monde, a fait en 2020 de l'Arabie Saoudite son décor, un choix qui a suscité la controverse en raison des manquements du royaume ultra-conservateur en matière des droits humains.
Ligue Europa, le point sur la cinquième journée de la phase de Ligue.
Manchester United a laborieusement battu Bodo Glimt 3-2 jeudi, mais n'a pas chassé ses doutes pour la première de son nouvel entraîneur Ruben Amorim à Old Trafford. Tenu en échec dimanche chez le promu et mal classé Ipswich, un but partout, les Mancuniens, anonymes 12e de Première Ligue, avaient été sommés par le technicien portugais d'enclencher une dynamique à compter du match contre les Norvégiens.
Mondial 2026, la France dans le chapeau 1 du tirage au sort des qualifications.
L'équipe de France fera partie du chapeau 1 lors du tirage au sort des qualifications de la zone Europe pour le Mondial 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique qui aura lieu le 13 décembre à Zurich, a annoncé jeudi la FIFA. Le statut de tête de série a été accordé aux 8 quarts de finalistes de la Ligue des Nations, France, Espagne, Portugal, Pays-Bas, Italie, Allemagne, Croatie, Danemark, ainsi qu'aux 4 pays européens les mieux classés au classement FIFA, Angleterre, Belgique, Suisse, Autriche. 16 pays européens, au lieu de 13 jusqu'ici, obtiendront leur billet pour cette monde à 48 équipes prévues du 11 juin au 19 juillet 2026. Le premier de chacun des 12 groupes sera directement qualifié pour la phase finale. Les deuxièmes ainsi que les 4 autres équipes les mieux classées parmi celles ayant terminé première de leur poule en Ligue des Nations se disputeront les 4 derniers tickets via des barrages en mars 2026.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour le dossier du jour. En 24 heures, le Tchad et le Sénégal ont annoncé le départ des forces françaises, alors que Paris préparait la reconfiguration du dispositif militaire français en Afrique. Cette rupture, perçue comme une opportunité pour l'influence russe, illustre l'échec persistant de la politique française en Afrique, selon certains experts. Pour une analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Paris, Sédi Kaba, journaliste, écrivain, spécialiste du Sahel et chercheur au GIRA de l'Université du Québec à Montréal.
Non, dans un cas, ça a été une surprise, dans l'autre, ça a été beaucoup moins. Dans le cas du Tchad, on peut parler d'une surprise parce que rien ne laissait entrevoir cette décision. L'envoyé spécial du président Macron sur les questions de reconfiguration de la présence militaire s'est rendu au Tchad. Et au regard des discussions qu'il a eues avec les autorités tchadiennes, il avait annoncé plutôt une réduction du nombre de soldats français qui devraient passer de 1000 à 300. Donc, si on regarde ça et si on voit que le timing de cette annonce, puisque l'annonce a été faite le jour même où le ministre français des Affaires étrangères, M. Barrot, a été reçu par le président Mahamat Idriss Déby, on ne peut que être surpris par la décision tchadienne qui, à mon avis, va avoir de grandes implications parce que le Tchad était presque le dernier allié au Sahel de la France, puisque la France a été évincée du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Au Sahel, le Tchad était son dernier allié. Par contre, au Sénégal, il n'y a pas de véritable surprise, puisque, comme on sait, le pouvoir actuel a été élu sur une dynamique souverainiste. Le pouvoir s'est engagé auprès de ses électeurs à avoir la souveraineté à la fois sur le plan stratégique, militaire, y compris même sur le plan économique, puisqu'on sait que le tandem Diomaye Faye et Sonko n'a pas exclu de battre une monnaie si jamais il n'y a pas d'évolution du franc CFA. Sur le plan militaire aussi, dès le début, les autorités sénégalaises avaient laissé entendre une option souverainiste. Et au regard du succès qu'ils ont remporté sur le plan des élections présidentielles d'abord en mars 2024 et des législatives du 17 novembre, ils ont donc décidé de dérouler ce programme souverainiste et il n'est pas surprenant dès lors qu'ils aient choisi de mettre fin à la présence militaire française au Sénégal parce que dans le cas du Sénégal, c'est très clair, il s'agit de la fin de toute présence militaire française au Sénégal alors que dans le cas du Tchad, on peut encore entrevoir une certaine ambiguïté.
Pour le cas du Tchad, la France a sauvé à plusieurs reprises le pouvoir du père Idriss Déby.
Le danger qui avait toujours guetté le père, c'était au moment de la stabilité du Soudan et avec le fait que le Soudan constituait une base arrière des rébellions successives qui se sont lancées à l'assaut de N'Djamena, dont celle de 2008 qui a failli emporter le régime. Maintenant, compte tenu de la situation sécuritaire au Soudan, il n'y a plus de possibilité que le Soudan serve de base arrière et la plupart des mouvements politico-militaires importants ont été inclus dans le processus politique qui se pose au Tchad. Donc la menace extérieure s'est beaucoup atténuée et aujourd'hui, compte tenu de son expérience, l'armée tchadienne a la capacité opérationnelle et même logistique de faire face à toute menace intérieure ou extérieure. Je crois que cela a pesé et puis il y a aussi le facteur sous-régional. Le Tchad a dit dans le communiqué qu'il n'excluait plus de contracter d'autres alliances stratégiques. Le Tchad sait que dans la sous-région, il y a la présence de la Russie, il y a la présence de la Turquie, il y a la présence d'autres acteurs. Donc le Tchad peut, en mettant fin à l'exclusivité du partenariat militaire avec la France, contracter d'autres alliances. Je pense particulièrement à la Russie, où le président Mahamat Idriss Déby s'est rendu récemment et il a rencontré le président Poutine.
Sédi Kaba, journaliste, écrivain, spécialiste du Sahel et chercheur au GIRA de l'Université du Québec à Montréal. Le Sénégal commémore le 1er décembre le 80e anniversaire du massacre de tirailleurs africains par les forces coloniales françaises près de Dakar. Deux jours avant la commémoration, une commission de recherche dans les archives françaises sur le massacre de tirailleurs a présenté ses premières conclusions lors d'une conférence de presse à Dakar. De nombreux Sénégalais espèrent que ce fait, qui date de la Seconde Guerre mondiale, sera inscrit dans le programme scolaire et dans la mémoire collective. Alexandrine Ollognon.
Qu'est-ce que vous savez des tirailleurs?
Ils sont tués
par l'armée
française.
L'armée française.
Oui.
En quelle année?
En 1944.
Très bien. Pourquoi?
Situé dans la banlieue de Dakar, Tiaroy garde toujours la marque du massacre de 1944 perpétré par les troupes coloniales françaises. Dans le collège Thierry 44, les élèves s'intéressent à cet événement historique, mais pour l'heure, dans le programme officiel, le massacre des tirailleurs de Thierry n'est pas enseigné comme cours. Aminata Tamba, professeur d'histoire au collège Thierry 44, montre des modèles des tenues que portaient les tirailleurs.
Ça, c'est un ceinturon. C'est ça, c'est la tenue que portaient ces tirailleurs-là une fois qu'ils ont été transités ici, dans le camp militaire de Thierry. On aimerait bien que les autorités sénégalaises pensent à intégrer l'histoire de Thierry 44 dans le programme. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des collèges ou bien même des lycées. Si aujourd'hui on demande à ces élèves-là, qu'est-ce que vous connaissez sur l'histoire de Thierry 44, ils ne seront pas en mesure de répondre, de dire quoi que ce soit sur ce massacre de Thierry.
L'enseignement scolaire sénégalais porte la marque d'une forme d'effacement du massacre de Thierry, à laquelle les nouvelles autorités politiques en place depuis avril veulent remédier. À l'approche de la commémoration, le Sénégal a mis en place une commission de recherche dans les archives françaises sur le massacre de Thierry. Constituée d'historiens, d'archivistes et de documentalistes, la commission a présenté ses premières conclusions lors d'une conférence de presse à Dakar. Rokaya Fall, historienne, a confié que ce fut une mission difficile, mais une mission qui a réussi.
Une mission difficile, mais une mission qui a réussi, si je peux m'exprimer ainsi, dans la mesure où nous avons pu avoir des choses inédites. Nous avons dans un premier temps été en contact avec des éléments qui ne faisaient, qui ne parlaient que du contexte général, qui ne parlaient de la Seconde Guerre mondiale. Mais nous avons eu aussi, par exemple, des actes de décès de tirailleurs fournis. En explorant les registres de décès de Dakar de 1945, nous avons relevé beaucoup d'actes de décès de tirailleurs.
Un colloque sur le massacre réunira des chercheurs du Sénégal et d'autres pays les 2 et 3 décembre à Dakar et Thiaroye. L'un des ateliers sera consacré à la place des tirailleurs morts à Thiaroye dans les programmes d'histoire.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Les autorités nigériennes suspendent les enseignements relatifs à la santé sexuelle et reproductive dans les établissements. Dans une note diffusée cette semaine, la ministre en charge de l'éducation a instruit les responsables des 10 établissements dans ce sens. Notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa, a recueilli les réactions des acteurs éducatifs sur cette décision.
La décision a été plutôt bien accueillie au niveau des principaux acteurs du secteur de l'éducation.
Nous accueillons favorablement cette décision. Nous soutenons cette décision de la ministre.
Wissi Latan Souleyman, président de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants.
Vous savez, depuis un certain temps, il y a ces phénomènes qui gangrènent toutes les sociétés du monde entier, qui voudraient faire de l'enfant quelqu'un de bien outillé par rapport à tout. Malheureusement, c'est un paradoxe par rapport à la culture que nous connaissons, nous, chez nous, en Afrique et particulièrement au Niger. Nous, les parents d'élèves, cette question, nous l'avions combattue. Nous la combattons et nous continuerons à la combattre. Donc aujourd'hui, que la ministre a eu le courage de la retirer, nous ne ferons que l'applaudir.
La structure nationale des élèves et étudiants salue également cette décision de la ministre en charge de l'éducation nationale. Ibrahim Abdoulaye est un de ses responsables.
Ça va permettre à ce que, dorénavant, les élèves puissent avoir des contenus qui vont leur être profitables. Plus tard, peut-être, lorsque ces mêmes élèves de l'école primaire ou bien même du secondaire atteignent véritablement l'âge adulte, là, ils peuvent être ou bien ils peuvent profiter d'un enseignement ayant trait à ces questions de sexualité, de reproduction, etc., etc. En tout cas, pour ce qui est de l'ISN, on ne trouve aucun inconvénient à cela. Et notre vœu aussi, c'est de poursuivre ces réformes courageuses pour pouvoir assainir notre système éducatif et lui permettre d'être un système éducatif et véritablement qui répond et à nos réalités socioculturelles.
Dans son double rôle d'enseignante et de parent d'élève, Rabiatou Magaji relativise tout de même la question au vu des arguments avancés pour prendre la décision.
Et les réalités de la vie font que le père ou la mère sont tous sur tous les fronts pour prendre soin de leurs enfants. Et ils n'ont pas toujours le temps de s'asseoir et de surveiller et de guider ses enfants. J'accueille cette décision avec une pointe de désespoir. Je suis enseignante, je vois ce que les filles font à l'école. Peut-être qu'une professeure de SVT ou bien d'économie familiale, elle peut parler à cette fille. Pendant le cours, elle peut comprendre beaucoup de choses qu'elle ne doit pas se laisser faire. Que son corps, c'est un sanctuaire, elle ne doit pas laisser n'importe qui le toucher. Moi, je trouve que ce n'est pas très prudent de rejeter tout ça là.
Les conclusions du comité mis en place pour relire de façon approfondie les contenus ainsi suspendus détermineront de leur intégration ou non dans le programme d'enseignement. Abdullah Razak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey.
Au Kenya, des cliniques délocalisées visent à fournir des soins de santé aux populations vulnérables en déplacement, tels que les chauffeurs routiers et les travailleurs du sexe. L'objectif est de lutter contre la propagation des maladies à travers les frontières en Afrique. Écoutez ce reportage de Juma Majenga depuis la ville de transit de Mlolongo au Kenya, relaté par Thierry Kaoré.
C'est une véritable ruche dans ce centre de santé composé de conteneurs maritimes convertis situé au cœur de Mlolongo, une ville sur l'autoroute très fréquentée entre Nairobi et Mombasa. C'est l'une des 7 cliniques installées dans des villes de transit le long du corridor nord du Kenya. Elle fait partie d'un réseau de 50 autres cliniques en Afrique de l'Est et du Sud. Ces cliniques sont gérées par l'ONG North Star Alliance. Elle offre des soins de santé aux populations mobiles comme les chauffeurs routiers, les travailleurs du sexe ainsi qu'aux communautés qui interagissent avec eux. Henri Mwazege est gestionnaire de programme chez North Star Alliance.
Lorsque ces populations se déplacent, l'accès à des soins de santé de qualité diminue. C'est pourquoi nous devons les cibler et rapprocher ces services d'eux afin qu'ils puissent contribuer à réduire ou à couper la chaîne de transmission.
Le ministère de la Santé du Kenya indique que les chauffeurs routiers longue distance et les travailleurs du sexe présentent une forte prévalence du VIH et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Patrick, nom d'emprunt, 75 ans, est chauffeur routier depuis près de 5 décennies. Il raconte avoir été contrôlé positif au VIH après un voyage professionnel au Botswana. Il a rencontré des difficultés pour accéder à des médicaments dans certains pays étrangers, mais grâce au réseau de cliniques de North Star Alliance, il peut désormais les obtenir à travers les frontières.
Maintenant, je peux simplement me rendre dans l'une de leurs cliniques avec ma carte. Une fois que je la montre, ils regardent et identifient mon type de médicament. Puis, ils me le donnent.
Catherine Wanja, travailleuse du sexe et éducatrice auprès de ses camarades dans la ville de Mlolongo, explique à la VOA que les chauffeurs routiers sont ses meilleurs clients car ils sont bien sensibilisés aux mesures préventives.
Les chauffeurs routiers ont leur propre famille. Alors nous devons utiliser une protection pour me protéger, protéger le client et protéger sa famille.
Pour étendre son impact, North Star mène des campagnes de sensibilisation en collaboration avec les communautés locales. Eunice Mwikali, qui gère une maison d'hôtes et un bar dans la région, explique que le partenariat entre son entreprise et le centre de santé a permis d'éduquer les clients, principalement des chauffeurs routiers et des travailleurs du sexe.
Par exemple, nous leur conseillons d'utiliser des préservatifs pour se protéger. Nous leur disons aussi de venir chez North Star car nous avons un lien avec eux et ils offrent des services gratuits. Et s'ils sont infectés ou s'ils ont oublié leurs médicaments, nous leur disons de venir chez North Star pour se ravitailler.
North Star indique avoir fourni des services de santé à plus de 180 000 patients dans la région en 2022. La majorité d'entre eux sont des chauffeurs routiers et des travailleurs du sexe.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde de Firmin Max Koyaweda. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.